Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Posséder la terre, posséder les êtres, maîtres et esclaves dans les Antilles françaises, la recherche historique sur les sociétés esclavagistes et post-esclavagistes s'enrichit. De nouveaux travaux, de nouvelles approches, elles repoussent les limites géographiques, chronologiques et sociales des études sur l'esclavage avec un regard au plus près des individus, de leur destin, de celles et ceux qui furent esclaves ou plutôt esclavisés.
L'abolition de 1848 résulte de deux choses essentielles. Il ne faut pas ramener toute l'abolition à l'action de Victor Schœlcher. Il ne faut pas non plus sous-estimer son action. Il ne faut pas oublier l'action extrêmement importante menée par les esclaves eux-mêmes. N'oubliez pas que ces Noirs amenés ici à l'esclavage n'ont jamais pris leur parti de la condition servile. Et toute l'histoire des colonies, c'est l'histoire des soulèvements d'esclaves.
Aimé Césaire, en 1982, avec Chassol, Bixon, qui résonne, je vois qu'il y a des sourires au moment d'évoquer ici, Chassol, c'est la Martinique, d'évoquer cette histoire-là. Bonjour Myriam Cotias.
Bonjour.
C'est vrai que Aimé Césaire le dit bien, l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire des révoltes contre l'esclavage.
Oui, Aimé Césaire l'a dit dès le centenaire de l'abolition de l'esclavage. Il a dit « les hommes font l'histoire », il était marxiste à l'époque. Et précisément, il introduit le sujet esclave comme acteur de sa propre histoire par les révoltes qui ont été nombreuses et égrenées pendant tout le 18e et le 19e siècle.
Avec cette histoire qui nous intéresse au sens où nous parlons facilement comme d'un tout de l'esclavage, de la traite. Mais aujourd'hui, Myriam Cotias, il y a, et on le sent bien, de nouveaux regards, de nouvelles études. C'est la démarche historique aussi qui permet cela, avec un élargissement du champ des réflexions autour du phénomène de l'esclavage. Vous êtes historienne du fait colonial, directrice de recherche au CNRS. Dans ce monde-là, il y a ce vocabulaire, et je l'ai évoqué en début d'émission, entre esclave et esclavisé. Votre choix à vous ?
Ce n'est pas un choix, en fait. Les deux termes sont utilisés et il faut le dire pourquoi. Esclave, c'est une condition, c'est un statut, et un statut juridique qui est encadré par un ensemble de lois. Et esclavisé, quand on utilise ce terme-là, on parle des êtres. On parle des personnes mises en esclavage qui, dans les interstices de la violence et du système esclavagiste, se sont quand même affirmées comme sujets et ont agi sur ce système esclavagiste.
Avec aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, plusieurs voix, plusieurs historiennes pour nous parler de tout ce que nous évoquons aujourd'hui. Hein, c'est ce renouveau des études. Bonjour Morgane Honoré.
Bonjour.
Sujet de recherche.
Alors, moi, je travaille sur la violence, justement, à laquelle faisait référence Myriam, mais dans un contexte spécifique qui est l'espace urbain, donc des villes coloniales et esclavagistes, notamment en Martinique et en Guyane.
Voilà, et la Guadeloupe aussi, hein, dans alors, le regard. Parce
oui.
Non, mais c'est vrai que ici, vous êtes en train, avec cette thèse, de réfléchir à ce moment particulier de la société esclavagiste et notamment de l'ordre, parce que c'est vraiment cette idée-là, hein. On a les textes qui ordonnent les choses.
Absolument.
Qui mettent tout en règle. La règle n'est jamais respectée, au sens où elle est là pour être transgressée.
Et ben, effectivement, je réfléchis à l'ordre et donc à son pendant au désordre. Et par le désordre, j'amène en fait, et plutôt s'est imposé par les sources, la question de la violence qui... peut-être est le désordre par excellence.
Ben oui, non mais c'est ça. Vous êtes doctorante à l'École des hautes études en sciences sociales. Votre directrice de thèse,
Myriam Cotias, ici présente.
Ben voilà, ça c'est très bien. Et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Adélaïde Marine Goujon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en histoire contemporaine à Sorbonne Université. Votre directrice de thèse.
Alors, je suis sous la co-direction de Jacques-Olivier Boudon et de Myriam Cotias.
Voilà, Jacques-Olivier Boudon, le centre de recherche de 19e siècle de l'université Sorbonne. Avec vous comme objet de recherche.
Alors, je travaille sur les Blancs créoles de la Martinique, donc au 19e siècle, qui sont en fait des propriétaires d'esclaves, des propriétaires fonciers, mais des propriétaires d'esclaves jusqu'en 1848 et des propriétaires tout court après 1848. Et je m'intéresse surtout à l'élite blanche créole.
Voilà, l'élite blanche créole dans ce monde-là, et je l'évoquais, hein, toutes les frontières sont en train de se distendre, frontières géographiques, frontières sociales aussi, pour comprendre ces sociétés esclavagistes. Avec nous dans le cours de l'histoire, Mathilde Ackermann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'Université de Bielefeld, c'est en Allemagne. Votre thèse porte sur quoi ?
Alors, ma thèse porte sur la relation postcoloniale entre Haïti et la France, et plus particulièrement l'indemnité payée par Haïti aux anciens propriétaires.
Celle de 1825, avec comme directrice de thèse ?
Alors, Myriam Cotillas, et je suis en direction avec Angelika Epple.
Du côté allemand.
Voilà. Du côté allemand.
Non mais Myriam Cotillas, vous dirigez ces thèses, c'est aussi un programme de recherche. En quoi ce programme de recherche a quelque chose d'original ?
Alors, il y a plusieurs programmes de recherche. Il y en a un qui vient de s'achever, qui portait sur les indemnités et la question de la réparation, où il s'agissait de prendre au sérieux cette question. C'est-à-dire prendre au sérieux, c'est-à-dire l'établir en termes historiques et produire des données. C'est pour ça que nous avons établi des bases de données, puisque les humanités numériques sont une nouvelle voie de recherche pour appréhender ces relations sociales. Et puis, il y a tout un ensemble de recherches qui portent précisément sur cette précision de la relation sociale, cette précision entre maître et esclave autour de la notion de propriété.
Avec cette direction que vous avez, Myriam Cotillas, du Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavage, ça aussi, hein, esclavage et post-esclavage, c'est-à-dire qu'il faut cesser d'avoir cette rupture 1848 dans le cas français.
Absolument, absolument. Cette rupture est absolument importante et essentielle, puisqu'elle établit la libération des esclavisés, mais dans le même temps, des structures de travail, le procès de travail ne change guère. Il y a un statut de citoyenneté, donc un appel, par exemple, à voter immédiatement en juin 1848, ce qui est une formidable utopie de la République. Mais dans le même temps, localement, les structures de travail ne changent pas, ni même les représentations. Or, les représentations sont très importantes dans la façon de gérer les relations humaines.
Adélaïde Marine Goujon, quand vous travaillez, vous, sur ces colons dans les plantations, d'un seul coup, ils voient leurs esclaves devenir libres. Ça change tout en 1848 ?
Alors, ça change beaucoup de choses, bien sûr, puisque il y a cette relation de servitude entre maître et esclave qui est détruite. Et ce que par contre j'ai pu observer, c'est que finalement cette relation, même si les esclavisés deviennent libres, finalement les maîtres demeurent les maîtres de la terre, demeurent les maîtres du travail. Et finalement, je pensais en fait effectivement au départ que 1848 serait un point de départ ou un véritable point de rupture. Et plus mes recherches ont avancé, plus je me suis rendu compte que cette rupture a été importante, profonde, éphémère, mais pas si importante que cela. C'est-à-dire que au bout de quelques mois, les choses rentrent progressivement dans l'ordre. Je me suis intéressée à un mouvement de panique et d'émigration, sur lequel on reviendra peut-être, mais les choses rentrent assez rapidement dans l'ordre.
Vous avez travaillé sur quelles sources ?
Alors, j'ai travaillé sur plusieurs types de sources, notamment des lettres du gouverneur, et j'ai travaillé sur des sources qui émanent des colons eux-mêmes, parce que les colons produisent beaucoup de sources, ils se plaignent beaucoup notamment, et évidemment, 1848, qui est un moment un peu paroxystique, ça les amène à produire beaucoup de sources de plaintes, et c'est un matériel formidable pour explorer en fait les bouleversements de 1848
bouleversement pour les colons.
Il n'existe plus personne à la Martinique qui veuille et puisse rendre un compte exact et véridique de ce qui s'est passé dans la commune du Prêcheur durant les honteuses et sanglantes scènes qui ont fait passer la colonie tout entière sous le joug des hommes de couleur. Les choses depuis le 1er mai empirait d'heure en heure. Tous les jours, on nous annonçait, pour la nuit suivante, un égorgement général. Et tous les matins, on s'étonnait de ne l'avoir pas vu commencer. Lorsque le 22 mai, à 11h30 du matin, au moment même où mon atelier quittait le champ de travail, le son de la corne, venant de la direction de Saint-Pierre, se fit entendre. Cet atelier, qui depuis le matin, et pour la première fois, avait manifesté de l'insubordination, s'arrête et se serre en masse. La corne se fait entendre de nouveau, avec des modulations différentes. et à l'instant, les nègres se mettent à courir à toutes jambes vers Saint-Pierre. Inutile de dire qu'ils étaient tous armés de coutelas, puisque c'est un instrument de travail, et que ce jour-là, précisément, je coupais des cannes.
La description par un propriétaire, un blanc créole, de ces événements de mai 1848. C'est en juillet 1848 qu'il écrit cela, Adélaïde Marino Goujon. C'est ces témoignages aussi qui nous portent au plus près du vécu. Parce que, bien sûr, l'abolition de l'esclavage comme une évidence est avancée certaine dans l'histoire de l'humanité, bien sûr, progrès, mais au plus près des gens, c'est bouleversement concret. Pour ce colon-là, il y a tout son imaginaire du monde qui s'effondre.
Oui, j'ai choisi cet extrait et c'est peut-être un des passages qui m'a le plus frappé dans ce texte parce que c'est grâce à lui qu'on peut connaître le moment où les choses basculent. C'est-à-dire que ce qui est décrit dans cet extrait, c'est le moment où ces esclavisés cessent de lui appartenir et ils décident eux-mêmes de leur propre liberté. Et on a le moment où ils sont esclaves et ils travaillent pour lui et tout d'un coup... Le son de la corne fait tout basculer. C'est-à-dire que c'est la corne de Lambi qui leur dit « Il se passe quelque chose à Saint-Pierre, il faut venir. » Et là, c'est terminé. Et c'est terminé pour lui parce qu'à ce moment-là, il cesse définitivement d'être propriétaire parce que l'insurrection fait que son habitation est par la suite incendiée, pillée. Donc, il perd tout. Et c'est pour ça aussi qu'il a beaucoup de choses à dire au ministre. Il se plaint beaucoup. Et c'est grâce à ce témoignage qu'on peut comprendre ce moment de bascule. Donc, il ne faut pas minimiser 1848. C'est clairement un moment de bascule. Lui, il est effectivement ruiné et il demande aussi réparation au ministre puisqu'il veut être indemnisé en plus de l'indemnité qui est prévue pour les propriétaires. Il dit voilà, j'ai défendu parce qu'à ce moment-là, il est maire de la commune du Prêcheur. Il organise ensuite la répression de l'insurrection. Il est quand même à l'origine d'une bonne vingtaine de morts d'après son propre témoignage et c'est pour cela qu'il demande ensuite à être indemnisé et en disant, et dans ce moment où il demande réparation à l'État, eh bien en même temps, il nous offre ce témoignage absolument extraordinaire.
Myriam Cotillas.
Oui, je voulais juste simplement ajouter que le soulèvement du 22 mai à la Martinique est l'aboutissement d'un très long processus. Parce qu'en fait, l'annonce de l'abolition de l'esclavage arrive dès février. En Martinique, ce qui fait que les ateliers d'esclavisés se saisissent de cette idée de la liberté qui arrive et commence à refuser d'aller au travail ou arrive en retard au travail. En fait, manifestent leur souhait, leur revendication de liberté. Et c'est un événement très banal qui est l'arrestation d'un esclavisé qui bat le tambour, qui va mettre le feu aux poudres. Mais on est déjà dans un contexte qui est plus ou moins séditieux et qui, à partir du nord de la Martinique, va s'étendre sur toute la colonie et qui va expliquer aussi l'abolition anticipée, parce qu'en fait, on est dans une abolition anticipée, puisque l'abolition officielle devait arriver au mois d'août. Et ce soulèvement des esclavisés de la Martinique explique que la Guadeloupe, voilà, promeut l'abolition de l'esclavage le 27 mai 1848.
Rupture évidente dans l'ordre de la société. Morgane Honoré, ce moment très particulier, cet événement doit quand même être mis en relation avec cette violence intrinsèque à ces sociétés esclavagistes, cette violence continuelle, et ça c'est sur le temps très long.
Absolument, oui. C'est très important, effectivement, de replacer finalement, ce qui est quelque part un retournement de la violence dans un très long processus qui, en fait, fait déjà écho à donc la première abolition dont on n'a pas vraiment parlé en 1794, où donc ce soulèvement massif et complètement exceptionnel d'esclaves à Saint-Domingue laisse un souvenir et une trace qui se répercute et qu'on trouve dans nos sources sur l'intégralité du 19e siècle. Il y a effectivement la crainte d'une répétition d'un second Saint-Domingue qui est visible absolument partout dans les discours. Alors Adélaïde le dira mieux que moi, mais dans le discours effectivement des Blancs créoles, mais aussi de l'administration coloniale, de l'État colonial, oui.
Adélaïde.
Oui, c'est ça, quand dans l'extrait Jean-François Antoine Huc, qui est le colon qu'on a entendu, dit « on craint un égorgement général », c'est absolument une référence à ce qui s'est passé à Saint-Domingue, effectivement. Et c'est le spectre, en fait, de Saint-Domingue qui ressurgit dès le début de 1848 et dès l'annonce de l'abolition.
avec cet effet générationnel, hein, pour le rappeler, la première abolition, c'est la Révolution française. Pour certains, certaines, on s'en souvient encore, ou au moins sont les parents qui ont raconté ça. Et puis il y a cet exemple aussi qui nous conduit vers vous, Mathilde Ackermann, parce que ce qui se passe dans ce qui est aujourd'hui Haïti, c'est l'exemple total pour les esclaves sur toutes les îles, ces esclavisés qui regardent ce qui se passe autour d'eux.
Exactement. Vous avez parlé de rupture et c'est l'exemple parfait en fait, le passage de Saint-Domingue en tant que colonie où des esclavisés vont se libérer de ses maîtres et arriver jusqu'à l'indépendance de 1804. Puis c'est cette période entre 1804 et 1825 qui va être le moment de la reconnaissance d'indépendance d'Haïti par la France. C'est un moment où l'on voit justement toutes les difficultés, autant pour les maîtres, comme le disait Adélaïde tout à l'heure, de ne plus se concevoir maître, mais d'abandonner sa propriété terrienne, mais également humaine. Et c'est le même moment où des esclavisés vont devenir individus libres et proclamer cette indépendance. Ils vont devoir la proclamer à maintes reprises pendant 20 ans pour être entendus en France.
C'est ça, hein, c'est être invisibilisé, mais au sens réduit simplement à l'état de meuble, d'objet. C'est la négation de l'humanité avec ces personnes esclavisées. Myriam Cotillas, on le voit bien, au moment des affranchissements, au moment des abolitions, à ces moments-là, on a l'individu qui revient. Et c'est aussi dans les intérêts aujourd'hui des historiennes, des historiens, de retrouver ces individus, de reconstruire ces biographies.
Absolument. C'est ce qu'on appelle le biographical turn et qui est une tendance historiographique très forte actuellement, où il faut aller au plus près, en fait, de cette, du concret, de la réalité, hein, bien, toute proportion gardée pour une avec les termes historiques, mais pour retrouver en fait la capacité du sujet esclavisé à intervenir ou à s'exprimer dans ce contexte esclavagiste. Donc c'est la raison pour laquelle de plus en plus de biographies sont retrouvées. Mais ce sujet ne s'exprime pas seulement au moment de l'abolition de l'esclavage. Et c'est ce qui est en train d'être montré, c'est que le sujet s'exprime tout au long du système esclavagiste, dans la domination et dans la violence. Et ça, vous voyez que le résultat en fait que l'on peut en tirer est extrêmement important, parce que ça change la vision historiographique qu'il y a eu jusqu'à présent, de présenter les esclavisés comme une sorte de masse informe qui n'avait pas de nom et qui n'avait pas de raison non plus. Or là, on est en train de retrouver tous ces éléments qui constituent l'être humain.
Ces individus qui n'ont jamais cessé de s'exprimer.
À Fort-de-France, comme chaque année, le carnaval du Mardi Gras a déroulé ses fastes. À travers les rues de la ville, une foule ardente et bigarrée a défilé pendant des heures en vagues ondulantes, au rythme des calypsos et des biguines. Toutes les barrières sociales ont disparu. Un seul mot d'ordre, s'amuser. Et le lendemain, mercredi des cendres, par une exception unique aux Antilles, la foule martiniquaise s'est retrouvée sur la place de la Savane uniformément vêtue de noir et de blanc, couleur de deuil, pour l'enterrement du carnaval. Comme on dit ici, Vaval est mort. Carnaval est mort, mais pour un an seulement.
Le carnaval de Fort-de-France dans les actualités françaises en 1963, Morgane Honoré, le carnaval, bah voilà, pratique festive au moment de l'exaltation, alors que partout, tout le temps, c'est l'ordre qui règne. Ça, c'est un moment où ces populations esclavisées peuvent s'exprimer.
Oui, c'est un moment où les populations esclavisées peuvent s'exprimer, mais c'est tout de même à nuancer. C'est-à-dire que le carnaval, effectivement bien connu pour sa dimension festive, telle qu'elle est décrite dans cette archive qui m'a fait beaucoup rigoler, mais il y a également une dimension éminemment politique au carnaval qu'il faut rappeler. Moi, c'est vrai que dans un premier temps de ma thèse, ma volonté était d'écrire une histoire politique et sociale du carnaval. Et alors, confronté au manque de sources et à la difficulté de trouver la trace d'une pratique aussi sociale et puis plus diffuse, c'est vrai que j'ai reconfiguré effectivement mon sujet. Mais le carnaval, c'est intéressant parce que dans les sources, on le trouve notamment dans les lois. Et donc, c'est intéressant parce que s'il est visible dans les lois, c'est donc qu'il y a d'entrée de jeu une volonté ou une tentative de le contrôler, d'en réguler les pratiques. Et c'est effectivement ce à quoi moi je suis parvenue en consultant méticuleusement, alors pour la Martinique, le carnaval de la Martinique, en consultant méticuleusement les archives de lois à partir de la moitié du XVIIIe siècle, et en fait on voit que ce carnaval, c'est intéressant, n'est jamais interdit. Par contre, on en régule les pratiques, c'est-à-dire qu'on interdit le port de masques, de déguisements, on régule les heures auxquelles on doit effectivement rentrer, arrêter les défilés, etc. Donc en milieu urbain, c'est vraiment très intéressant. Et effectivement, ce carnaval, il semble, partout dans les lois, menacer l'ordre esclavagiste et colonial. Et donc ça se voit à différents niveaux, dans le fait qu'il est interdit pour les maîtres blancs de se trouver dans des assemblées d'esclaves, dans des défilés d'esclaves, il est interdit de défiler ensemble, en fait, tout simplement. Et en fait, on voit là la séparation de la société qui est à l'œuvre et qui est du moins tentée par les autorités coloniales. Mais c'est peut-être le plus intéressant, c'est que ces lois sont systématiquement répétées tous les ans. Donc, ce qui prouve, ou ce qui donne au moins une idée, qu'elle n'était pas respectée. Voilà.
Bien sûr. Myriam Cotias, avec l'idée de contraindre les corps, oui, ça, c'est l'esclavage, mais pas seulement les corps, en fait. C'est contraindre les esprits, c'est ce contrôle absolu sur les individus.
Oui, et c'est aussi la définition d'un ordre racial dans les sociétés esclavagistes. Et puisque les lois déterminent exactement la position des individus selon leur identification raciale, qu'ils soient blancs, qu'ils soient libres de couleur. Alors là, c'est cette catégorie assez floue qui dit ça, surtout que ce sont des personnes qui ont été affranchies. Et puis, il y a les noirs, qui dans les archives sont aussi appelés les nègres, dans une équivalence de termes qui a perduré et qui perdure peut-être encore, bien que Aimé Césaire ait renversé le terme de nègre, au contraire, pour en faire une valorisation et une fierté. Mais ce qui est demeuré, alors on a deux définitions en fait qui coexistent, cette définition d'une liberté d'un corps noir et d'une fierté et d'une dignité, et puis des représentations qui ont été alimentées par l'histoire coloniale du 19e siècle, où ce terme-là a continué à imprimer les esprits avec la notion d'esclave et une déconsidération évidente.
Avec un écho que l'on peut faire, toujours sur le vocabulaire, avec ces blancs qui sont présents, Martinique, ces colons, Adélaïde, Marine Goujon, comment on les appelle? Parce que vous utilisez ce terme de blanc créole.
Oui, j'utilise le terme de blanc créole, j'utilise aussi le terme de colon parce que dans les sources, c'est vraiment ces termes-là qui sont utilisés, donc colon ou créole. Et créole est important parce que pour cette population née dans la colonie, qui évolue dans la colonie depuis... Moi, je les étudie à partir de 1815 et certaines familles sont là depuis le milieu du XVIIe siècle. Et on voit dans les sources qu'ils produisent qu'ils tiennent à se distinguer des Français de métropole. Il y a vraiment l'idée que nous sommes nés dans la colonie, notre terre c'est la Martinique et vous, Français de métropole qui venez ici, vous ne connaissez pas la réalité et nous savons quel est le terrain, entre guillemets, le terrain racial en fait sur lequel nous évoluons et la main mise en fait que nous sommes légitimes à avoir sur ce territoire. Donc c'est vraiment les termes que que j'utilise.
Et puis, à vous écouter, il y a ce qu'évoquait Myriam Cotia, c'est-à-dire l'intérêt aussi pour reconstituer ces biographies. C'est pas de la biographie, c'est ce mélange de temps et temps d'études qui permet, par comparaison, de cerner des phénomènes sociaux un peu plus larges.
Oui, c'est ça. Alors, en ce qui me concerne, je fais pas forcément des biographies, mais j'essaye effectivement de reconstituer le parcours d'une vingtaine de familles sur un siècle. Donc, c'est vraiment la base de ce travail. Donc, c'est vraiment l'idée de reconstituer des généalogies, des parcours de vie, mais sur le temps long, en tout cas sur le temps d'un siècle, qui permet aussi de voir les évolutions en fonction du contexte. Et on voit aussi comment se reconfigure en fait la domination de cette population dans la colonie. Donc évidemment, il y a ce moment de 1848 qui est important, mais on voit qu'entre 1815 et 1914, il y a vraiment des mutations très importantes au fil du contexte. Qui change beaucoup la vie de ces familles.
Non, mais c'est une histoire sociale qui est passionnante pour comprendre d'autres phénomènes. Mathilde Ackermann, vous, votre intérêt se porte sur les colons de Saint-Domingue. Ils sont différents, ces colons de Saint-Domingue, de ceux de la Martinique ou de la Guadeloupe ?
Alors oui, ils sont différents déjà d'une part parce que Saint-Domingue était la colonie la plus riche de la France au XVIIIe et début du XIXe siècle. Et ces colons se trouvaient souvent en France. Et non, comme ça a pu être le cas en Martinique ou en Guadeloupe, ils ne se trouvent pas sur l'île, ils se trouvent souvent en France et vont faire gérer leur plantation par un gérant de plantation qui, lui, sera sur l'île. Donc, en fait, ils sont totalement intégrés à la société française, vont avoir des hautes positions en France tout en étant colons de Saint-Domingue.
Ouais, c'est ça, hein, c'est essayer de comprendre ces sociétés complexes tout en prenant en compte les particularités, parce que Myriam Cotias, on ne peut pas tout comparer avec des différences de trajectoire liées aux événements, parfois politiques. Enfin, on voit bien ce mouvement porté par les esclavisés à Saint-Domingue, et puis après, il y a les Anglais qui sont pas loin et qui ont une incidence sur ces histoires-là, les Espagnols aussi
qui convoitent la colonie française. Alors bien sûr, tout n'est pas comparable. Il est important de situer à chaque fois les biographies que nous réalisons et même les concepts de relations sociales que nous utilisons. Mais dans les grandes avancées aussi qu'il y a eu dans l'histoire de l'esclavage ces derniers temps, il y a une notion qui est importante, qui est celle de la circulation. De la circulation entre les colonies, entre les métropoles. C'est-à-dire que les frontières coloniales de chaque colonie se sont étendues. Et on est arrivé à un espace atlantique extrêmement large, dans lequel il faut penser les relations sociales, dans lequel il faut penser aussi le statut d'esclavisé, puisque on part des Antilles, disons la Martinique, et après on peut aller aux États-Unis, et après on va aller à la Barbade, la Jamaïque, l'Afrique, revenir dans les colonies françaises. Donc on est dans un ensemble qui est extrêmement complexe. Et c'est cette complexité qu'il faut faire comprendre pour l'histoire de l'esclavage.
Cette histoire de l'esclavage qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire avec ces nouvelles approches, ces nouveaux regards que nous offre la recherche historique.
Do you remember the days of slavery? Do you remember?
fantastique Burning Spear, Slavery Days en 1975 et aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique d'Alia A dans le cours de l'histoire. Les propriétaires d'esclaves dans les Antilles françaises face aux esclavisés, posséder la terre, posséder les êtres, c'est ce qui nous intéresse et faut le dire tout de suite et le rappeler sans cesse, Adélaïde de Marine Goujon, nous parlons des Antilles françaises, mais ce n'est pas une histoire antillaise, puisqu'il y a au moins les Antilles françaises et la France, et c'est une histoire de circulation sans cesse, c'est une histoire qui dépasse largement des frontières qui seraient petites et délimitées.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé la thèse, j'avais dans l'idée, donc avec discussion avec Myriam Cotias, d'essayer de sortir ma population de colons du cadre unique de la colonie de la Martinique. Parce qu'en réalité, je me suis très vite rendu compte en lisant les sources que c'était pas forcément l'unique échelle pour les étudier et qu'en réalité, il y a un cadre impérial et régional caribéen et américain dans lequel ils s'inscrivent totalement et que comme j'étudie une population de colons et donc une population de dominants, eh bien... C'était un peu tronquer la réalité que de ne les étudier qu'en Martinique. Ce qui a été le cas dans l'historiographie jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses dans l'historiographie, ils sont présents dans les ouvrages d'histoire. En revanche, on n'a pas vraiment d'idée sur leur circulation. Alors on sait qu'ils envoient leurs enfants étudier en France et en dehors de ça, on ne connaît pas grand-chose de leur circulation. Or, quand on lit les biographies, on se rend compte qu'il y a des liaisons, des circulations à l'échelle de l'empire colonial français qui ne se limitent pas au face-à-face entre métropole et colonie, et qu'il y a aussi des liens plus ou moins étroits avec l'environnement régional, avec les autres colonies caribéennes, mais aussi avec les États-Unis. Et ça, c'est vraiment très très important parce qu'il y a toute cette histoire longue des circulations dans l'espace américain qui est vraiment très très important au 19e siècle. Donc on sait que la Nouvelle-Orléans, la côte est des États-Unis, ce sont des endroits où les colons de la Martinique, de la Guadeloupe ont aussi des liens. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont été écrites sur les colons de Saint-Domingue qui vont aux États-Unis, eh bien c'est, à toute proportion gardée, des circuits similaires pour les colons de la Martinique et c'est ce qui les aide aussi à entretenir des stratégies de domination.
Mathilde Ackermann, ces colons de Saint-Domingue, eux aussi s'inscrivent dans cette grande histoire de circulation.
Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que après la révolution haïtienne, même pendant d'ailleurs, ils vont fuir l'île et vont s'éparpiller dans tout l'espace caribéen, mais également aux États-Unis. Ils vont partir se réfugier à Cuba, on va en retrouver à Philadelphie, à la Nouvelle-Orléans, et beaucoup vont également retourner en France, mais dans les autres colonies françaises également, comme la Martinique et la Guadeloupe. Et en fait, ces colons qui s'éparpillent quelque part vont apporter avec eux la culture, une culture en tout cas coloniale, un esprit colonial, et ça jusqu'à la France. Et ça va être très très intéressant aussi à regarder ceux qui vont partir avec leurs esclaves. Il y en a qui vont décider de vraiment prendre tout leur bien avec eux, et les esclaves en font partie. Donc on aura en France, à ce moment-là, une arrivée en fait, de maîtres, et non pas que de simples émigrés.
Dites-nous, juste pour préciser, ils arrivent avec leurs esclaves, mais en France, il ne peut pas y avoir d'esclaves. Comment ça se passe? On les fait passer pour des domestiques? Qu'est-ce que disent ces maîtres?
Voilà, exactement. Ce sont des domestiques qui ont qui vont faire partie de la maison. Certains arrivent également avec leurs enfants de couleur. Enfin, c'est vraiment à ce moment-là où différentes trajectoires vont se mettre en place. Mais pour la plupart, ça va être effectivement des domestiques qui vont être considérés comme tels. Et ils ne sont pas libres. Dans l'esprit du colon, ils appartiennent à la maison. Ils doivent rester dans cet environnement-là.
Myriam Cotias.
Simplement pour ajouter, c'est que l'arrivée de ces immigrés selon l'endroit va déterminer le statut des esclavisés qui les accompagnent, parce que ce ne sont plus des esclavisés. L'esclavage a été aboli à Saint-Domingue, donc en France ils sont serviteurs, mais aux États-Unis ils vont redevenir esclaves. Les États-Unis n'ont pas aboli l'esclavage à ce moment-là. Cuba non plus, où il y a une partie des immigrés haïtiens de Saint-Domingue, plus exactement, qui émigrent. Là encore, les affranchis, anciennement esclavisés domingois, redeviennent esclaves. Donc vous voyez comment ce système, ça prouve combien la liberté est fragile. La liberté est fragile parce que associée aux personnes noires esclavisées est toujours associée ce statut d'esclave. Voilà. Et ce soupçon d'être esclave.
Et dans la volonté de maintenir l'ordre, Morgane Honoré, il y a, toujours dans la réflexion autour de l'idée de circulation, peut-être une continuité, quelque chose qui persiste, qui est là partout, c'est la violence. Avec, malgré tout, des degrés de violence, c'est triste à dire, hein, la violence est évidente, mais on peut assister à des écarts de violence selon les colonies.
Oui, absolument. Et ce qu'il faut rappeler, alors oui, je rebondis sur cette question des circulations. Les circulations, ces nouvelles approches sur l'esclavage, elles permettent effectivement de repenser, de penser les circulations comme cela a été dit à l'échelle impériale, régionale, transnationale. Mais il y a aussi des approches qui permettent aujourd'hui de voir que les circulations sont même en interne au niveau de la colonie elle-même. Et typiquement, ma focalisation sur l'espace urbain permet de noter ces circulations entre les plantations, les habitations et l'espace urbain. Montrer justement que l'habitation n'est pas un espace clos, n'est pas un espace fermé sur lui-même, mais circule et que ça change plein de choses qu'on n'aura pas le temps de détailler aujourd'hui. Mais déjà cela. Et sur la violence, effectivement, je pense que c'est important d'avoir en tête que dans les sociétés coloniales esclavagistes, il n'y a pas ou moins ce monopole étatique de la violence légitime. En fait, il n'y a pas de monopole. Il y a un partage avec les maîtres. Les maîtres pratiquent majoritairement l'exercice. Enfin, c'est eux qui assurent l'exercice de la violence dans l'espace privé, en fait. Et donc, moi, mon intérêt pour la ville, c'est que c'est le moment où la violence d'État est visible. Puisque les châtiments ont lieu en place publique et sont donc régis par des actes judiciaires précis, etc. Voilà, moi c'est mon focus et effectivement c'est une constante jusqu'à 1848. Mais la violence varie, bien entendu, à l'approche de l'abolition notamment. Il y a des lois, notamment la loi Maco de 1845, qui va octroyer davantage, puisque cette abolition, comme Myriam Cotias l'a rappelé, est processuelle et vient c'est un long processus. On va voir justement une sorte de modification de la violence, de révélation aussi de la violence. Notamment à partir des années 1840, les sévices pratiqués par les maîtres qui ne respectent pas le code noir, hein, dont on n'a pas tellement parlé, pratiqués sur leurs esclaves, vont devenir de plus en plus visibles, vont être révélés. Et moi, j'étudie aussi cette circulation où les esclaves, à un moment, vont quitter l'habitation, venir en ville, révéler la violence subie par leur maître et la violence abusive.
Adélaïde Marine Goujon, c'est vrai qu'en étudiant ces colons-là, vous étudiez aussi la manière dont ils peuvent se représenter ce monde, leur monde, avec tous ces pouvoirs dont ils disposent, en tout cas dans leur plantation. C'est même absolument fascinant d'imaginer tout cela et que c'est la révélation qui peut éventuellement faire bouger les choses. Et faut rappeler quand même tous ces combats, et j'aime beaucoup cette idée de processus. C'est un temps très très long avant d'arriver à 1848.
Alors, pour rebondir sur ce que disait Morgane et sur la question de la violence, dans la façon dont les maîtres se représentent eux-mêmes, la violence est systématiquement euphémisée. C'est-à-dire que pour que la violence soit révélée, il faut que ce soit par des procès, donc qui se développent à partir de 1845. Et là, on comprend l'extrême violence qu'ils font régner sur leurs esclavisés. Mais quand on lit les textes qui émanent d'eux, je travaille beaucoup à partir de sources du fort privé, donc d'écrits personnels et familiaux, la violence est totalement euphémisée. C'est-à-dire qu'ils ne se représentent pas eux-mêmes comme porteurs et comme exerçant une violence extrême. Et quand ils l'exercent ou quand ils l'expriment, c'est sous le prisme de la légitimité et de la nécessité du maintien de l'ordre. C'est quelque chose qui leur apparaît comme nécessaire, une sévérité absolument nécessaire. Mais ils ne se représentent pas comme des personnes violentes ou exerçant une domination violente. Donc évidemment, on ne peut pas compter sur eux pour qu'ils avouent la violence extrême des sociétés esclavagistes. Et on est évidemment obligé d'aller chercher ailleurs. Néanmoins, les écrits révèlent tout de même la façon dont ils se perçoivent comme maîtres, c'est-à-dire, je reviens à l'extrait que vous avez diffusé tout à l'heure, c'est-à-dire que le travail des esclaves leur appartient, c'est-à-dire que à Jean-François-Antoine Hugues, tout à l'heure, disait « ce matin-là, je coupais des cannes ». Mais il est bien évident que ce n'est pas lui qui coupe les cannes, ce sont ces esclavisés qui le font pour lui. Mais il les conçoit comme des extensions de lui-même. Et il n'est pas le seul. Pierre Pierre Nial écrit systématiquement la même chose. Je sarclais à fond bureau, je taillais ceci, je coupais cela. Et comme si c'était lui qui travaillait, sauf qu'en fait ce n'est pas lui, ce sont ses esclavisés. Mais les esclavisés disparaissent sous leurs plumes et ce sont eux, les maîtres, qui s'approprient le travail. Donc il y a vraiment une invisibilisation de la domination, de la violence et une euphémisation de ces rapports violents.
Et je comprends très bien maintenant, encore plus que je l'avais compris tout à l'heure, pourquoi ce mot « esclave » est à utiliser avec précaution, au sens où c'est le statut juridique utilisé d'ailleurs par les colons, alors que « esclaviser », c'est mettre en avant l'individu qui est réduit en esclavage. Mathilde Ackermann.
Oui, moi j'aimerais beaucoup réagir sur cette notion de violence pendant l'esclavage, mais elle a existé également dans cette période post-esclavagiste. C'est-à-dire que entre 1804 et 1825, en fait, Haïti est dans cette entre-deux où elle se pense libre et la France est persuadée d'avoir un droit de possession sur cette île. Et à ces moments-là, il va y avoir différentes voix qui vont s'élever pour aller recoloniser, aller reconquérir Saint-Domingue et avec des projets d'extermination. C'est-à-dire que les anciens colons, puis cette idée-là va être reprise ensuite par l'État, vont réfléchir à comment reprendre possession de la terre. Et la meilleure façon de le faire, selon eux, c'est d'exterminer tous ces Noirs. C'est ce qu'ils vont dire. Et d'aller en chercher en Afrique et de recommencer depuis le début ce processus de colonisation. Donc on peut s'imaginer à ces moments-là la violence pour ces anciens esclavisés qui se sont battus vraiment et qui ont gagné la guerre. Il faut le dire, Haïti a gagné sur papier la guerre contre la France et ils reçoivent ces documents-là, ils les lisent. On a des preuves que les chefs d'État haïtiens connaissent très bien les intentions de la France, en fait, de vraiment tous les tuer. Donc, quand on parle d'extermination, on ne pense pas souvent à ce moment post-colonial, mais il faut y penser, il faut le remettre en contexte, que la violence persiste et va continuer.
Adélaïde Marine Goujon.
Oui, sur la continuation de la violence en contexte post-esclavagiste. Alors, sans aller aussi loin que la question de l'extermination, mais je pensais à un document que j'ai lu qui émane d'une blanche créole, alors de la Guadeloupe cette fois-ci, et qui en fait reproduit les rapports en raison de la traite, puisqu'il y a un engagisme qui se développe dans la période post-abolition. Et en fait, on se rend compte que la façon dont il s'exprime, c'est en fait la même chose que quand il s'agit d'aller acheter des esclaves. C'est-à-dire que elle dit, on va acheter un lot d'engagés. Donc, on voit bien que c'est la même chosification, pour reprendre le terme d'Aimé Césaire, que sous la période d'esclavagie. Donc, il y a vraiment une habitude sur le temps long de la violence et de la domination.
Morgane Honoré.
Oui, je rebondis parce qu'effectivement, je pense que c'est très important de complexifier en fait cette violence. Un endroit où cette complexification se fait bien, c'est lorsqu'on réalise que la violence concerne également les libres de couleur et qu'elle n'est pas juste une histoire de statut, mais qu'elle a aussi une dimension racialisée, raciale, puisque les libres de couleur donc sont des individus libres et pourtant, typiquement dans les années 1800, alors dès le milieu du 18e siècle, mais jusqu'aux années 1830 et après, ces libres de couleur sont soumis à des formes d'exclusion et d'exclusion violente. Typiquement, quelque chose qu'on dit peu, c'est que ces sociétés esclavagistes sont des sociétés où s'applique la ségrégation. Ce sont des sociétés, effectivement, où dans l'espace public, les libres de couleur et les esclaves n'ont pas le droit de s'asseoir à côté des blancs. Dans les théâtres, n'ont pas le droit de faire les processions religieuses à côté des blancs, ont des lieux, des espaces spécifiques attitrés dans les cimetières, par exemple. C'est aussi une forme de violence qui permet aussi de complexifier cette violence qui est finalement multiforme.
Mathilde Ackermann.
Oui, j'aimerais revenir un petit peu sur ce pouvoir des anciens colons. En fait, il faut aussi penser que l'indemnité haïtienne, donc le paiement que les Haïtiens, les anciens esclavisés, vont payer aux anciens propriétaires, prouve ce processus long, prouve que les anciens colons, en fait, ne vont jamais arrêter d'être des maîtres. Ils ne vont jamais réussir à sortir de cette mentalité-là, de ce pouvoir, de cette domination, puisqu'ils continuent à percevoir de l'argent jusqu'à la fin du 19e siècle pour des possessions perdues pendant l'ère coloniale. Donc là, on voit très bien en fait ce processus qui s'allonge en plus dans le temps, puisque les paiements vont durer 70 ans, d'un pouvoir qu'on n'arrive pas à concevoir autrement que colonial.
Ces indemnités, c'est celle de 1825, l'ordonnance du 17 avril 1825.
Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, salut. Voulant pourvoir à ce que réclame l'intérêt du commerce français, les malheurs des anciens colons de Saint-Domingue et l'état précaire des habitants actuels de cette île, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. Article 1. Les ports de la patrie française de Saint-Domingue seront ouverts au commerce de toutes les nations. Article 2. Les habitants actuels de la partie française verseront à la Caisse Générale des dépôts et consignations de France, en cinq termes égaux, d'année en année, le premier échéant le 31 décembre 1825, la somme de 150 millions de francs destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité. Article 3. Nous concédons à ces conditions aux habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue l'indépendance pleine et entière de leur gouvernement.
Thomas Beau qui nous lisait cette ordonnance du roi Charles X en 1825, Mathilde Ackermann. D'ailleurs, elle fait froid dans le dos, cette ordonnance, sachant que le paiement a duré aussi longtemps. Peut-on dire d'ailleurs que cette dette imposée par la France, ces indemnités, ont été un poids dans l'histoire d'Haïti au XIXe siècle et peut-être aujourd'hui encore?
Ça a été indéniablement un poids dans l'histoire haïtienne, puisque le 150 millions de francs or à cette époque représente plus de 5 fois, je parle de PIB, c'est pas le PIB, mais en tout cas 5 fois les caisses nationales
du pays. Les recettes de l'État, oui.
Voilà, les recettes de l'État à ce moment-là. Et Haïti va être dans l'impossibilité de payer, et la France le savait lorsqu'elle leur a fait signer cette ordonnance. C'est-à-dire que la France avait déjà dans l'idée de leur faire prendre un prêt à haut taux, et pour payer la première annuité, Haïti va devoir prendre un prêt auprès des banques françaises. Donc là, on rentre dans une première dette. Ensuite, quelques années plus tard, en 1838, on va reconfigurer, puisqu'Haïti est incapable de payer la suite, ne serait-ce que de l'indemnité ou de ce premier paiement de prêt, on va réduire l'indemnité de 150 millions à 90 millions. Et dans cette réduction-là, on va leur faire prendre un deuxième prêt. C'est ce qu'on appelle en fait la double dette haïtienne. C'est la dette que va contracter Haïti au 19e siècle auprès des banques françaises, puis par la suite auprès d'autres banques internationales pour pouvoir payer l'indemnité à ces anciens colons.
Myriam Cotias, ici on voit bien que cette histoire que nous évoquons en disant que les frontières s'élargissent, les frontières chronologiques au sens où nous comprenons l'histoire d'Haïti et jusqu'à la situation complexe actuelle et peut-être le regard porté par les Haïtiennes et les Haïtiens sur la France à l'aune de tout ce que l'on vient d'entendre.
Oui, c'est une histoire qui a des effets dans le contemporain, c'est indéniable. Il faudrait ajouter que la France va céder une partie de la dette haïtienne aux États-Unis, ce qui va justifier l'invasion et l'occupation d'Haïti par les Américains. Donc c'est une question qui est française, bien évidemment, et à ce titre-là, la France doit y faire face. Elle doit poser la question, poser les problèmes. Et c'est absolument légitime de le dire, mais en même temps c'est une question qui est beaucoup plus internationale, puisque Haïti a été victime à de multiples niveaux de cette domination.
Parce que c'est vraiment cela, hein. C'est une histoire qui dépasse, et on n'arrête pas de le dire, mais là on le comprend de manière très claire, toutes les frontières, avec également l'importance de ce renouveau historiographique. Et comme toujours, l'histoire, c'est pas simplement pour lire des livres de collègues historiennes ou historiens, c'est aussi pour faire comprendre au plus grand nombre cette question de simplement identité, compréhension du monde, savoir où nous nous trouvons. C'est ça cette démarche aussi, Myriam Cotias.
Absolument. Il faut avoir une démarche scientifique. Et j'insiste sur ce terme-là, parce que l'histoire est une pratique scientifique. Elle s'appuie sur des archives, la démonstration de la preuve à chaque fois. Et il faut sortir l'histoire de l'esclavage d'une dimension morale et moralisatrice. Et c'est absolument important, parce que le faisant, on peut construire une véritable égalité. On peut construire une société qui se pense avec l'ensemble des citoyens. L'enjeu est extrêmement important. Il faut se dégager de toutes les accusations à la fois de repentance, de wokisme, ce terme dont on ne sait absolument pas ce que ça veut dire, mais qui est un terme idéologique et qui a pour fonction de dévaloriser le travail des historiens.
Ah oui, parce que c'est vraiment important de le dire, de le souligner, de le rappeler sans cesse. L'histoire, ce n'est pas une opinion, c'est une science, une démarche historique. Et ça ne veut pas dire que cela est austère. Au contraire, il y a la possibilité de trouver des formats pour s'adresser au plus grand nombre.
Yékrik, Yékrak. L'histoire que je vais vous raconter se passe sur une île qu'on appelle aujourd'hui la Martinique. Il y a très longtemps, elle avait un autre nom. Avant l'arrivée des colons, les Indiens Caraïbes l'avaient appelée Madinina, l'île aux fleurs. Partout, on était charmé par l'odeur vanillée des fleurs du frangipanier. On était saisi par le parfum des fleurs de balisier. Mais un jour, des colons apportaient dans leur bagage la fleur de lys, symbole du roi Louis XIV, propriétaire de l'île de la Martinique. Et à la fin de notre histoire, l'odeur de la fleur de lys aura remplacé celle des autres fleurs.
Code noir, les révoltés du Gaoulet, fiction sonore, un podcast. Myriam Cotias, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'une révolte, enfin d'une tentative de révolte d'esclaviser la Martinique en 1717, qui se trouve donc dans les archives et qui repose sur le témoignage de plusieurs esclavisés qui vont être arrêtés et qui vont révéler une organisation secrète qui va être appelée le Gaoulé, qui existerait en Martinique et qui avait pour but de foncer sur les Blancs, comme disent les archives, pour les tuer. En fait, c'est un moment de renversement dans la colonie martiniquaise où le nombre des Blancs colons décroît par rapport aux esclaves de traite. C'est une société en bascule réellement, qui s'inscrit dans l'esclavage et qui ne va fonctionner que comme ça. Et cette affaire du Gaoulé révèle à la fois les résistances, mais aussi les peurs des colons qui ont peur d'être tués. Il faut insister sur la violence va avec la peur, et des peurs réciproques, des projections de meurtre et de violence exprimées les uns contre les autres.
Et pourquoi ce format d'une fiction sonore ?
Il faut trouver des moyens de faire connaître cette histoire. C'est absolument important. Nous, en tant qu'historiens professionnels, nous avons peut-être cette limite qui est d'écrire des ouvrages ou d'écrire des articles scientifiques qui ne diffusent pas dans le grand public. Or, la question de l'esclavage est une question qui est aussi éminemment contemporaine, parce qu'elle organise aussi des rapports sociaux et politiques de la société contemporaine. Donc, il nous faut trouver des moyens, et aussi reste qu'on a développé cette position de chercheur citoyen, c'est-à-dire de chercheur qui est aussi impliqué dans le dialogue, dans un dialogue social.
Le CIRESC, c'est le Centre international de recherche sur les esclavages et post-esclavage, avec cette envie de suivre tous ces travaux et de les diffuser. C'est ce que nous essayons aussi modestement de faire dans le cours de l'histoire sur France Culture. Merci vivement à toutes les quatre d'être venues dans cette émission. Pour celles qui doivent terminer leur thèse, tout notre courage et l'impatience de vous lire. Et puis pour sinon trouver les références, il suffit d'aller sur le site Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr. Merci à toutes les quatre. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi l'extrême droite a-t-elle présenté l'avortement comme un crime contre la race ? L'affirmation que l'avortement est un crime contre la race est devenue un slogan officiel à l'époque du gouvernement de Vichy. Néanmoins, force est de constater que les parlementaires de la Troisième République avaient utilisé ce genre de formule dès le début du XXe siècle. En 1909, par exemple, le député Joseph Reinhardt prit à partie le garde des Sceaux à la tribune de l'Assemblée en affirmant « L'avortement criminel ne compromet pas seulement l'avenir du pays, l'avenir de la race, mais il atteint le présent lui-même dans les sources profondes de la vie, puisqu'en même temps qu'il détruit le fruit, il compromet à jamais la santé des femmes qui en sont les victimes. » Le long débat sur la correctionnalisation de l'avortement, né à la fin du XIXe siècle, aboutit à la loi de 1923, qui fit de l'avortement un délit pénal. Mais la pression des associations natalistes s'accentua au cours des années 30, avec le soutien actif des ligues d'extrême droite. En 1939, alors qu'il était président du Conseil, Édouard Daladier, auquel j'ai consacré une récente chronique, relaya ses discours. Dans le préambule au Code de la famille, il demanda au président de la République d'approuver, je cite, « l'aggravation de la répression des vices et la lutte contre les fléaux sociaux qui constituent autant de dangers pour l'avenir de la race ». Nous avons là une autre illustration des concessions croissantes faites à l'extrême droite par le pouvoir républicain dans les années 1930. C'est un nouvel exemple qui permet de s'interroger sur les origines républicaines de la politique mise en œuvre par le régime de Vichy. Une étude réalisée sur un corpus de plus de 600 comparutions pour avortement dans la région Limousin-Poitou-Charentes a montré que le gouvernement pétainiste avait repris à son compte la législation contenue dans le Code de la famille en aménageant certains de ses aspects répressifs. Cette continuité s'explique par le fait que ce sont les principaux promoteurs du dit Code, étroitement liés à l'Alliance nationale contre la dépopulation, qui ont été placés à la tête des institutions familialistes et natalistes de l'État pétainiste français. Ce qui n'empêche pas de souligner la rupture qu'a provoquée la Révolution nationale, puisque l'abandon des principes démocratiques sur lesquels reposait la Troisième République a entraîné une fuite en avant dans la répression. Officiellement défini comme un crime contre la mère et l'enfant, l'avortement, présenté comme le principal facteur d'affaiblissement des naissances, a été dénoncé aussi comme un crime contre la nation. C'est au nom de ces principes que le paroxysme dans la répression a été atteint le 28 juillet 1943, lorsque Marie-Louise Giraud fut décapitée dans la cour de la prison de la Petite Roquette. Après la guerre, le rétablissement de la démocratie n'a pas mis fin à la criminalisation de l'avortement. Les textes législatifs de la Quatrième République, codifiant la santé publique, ont repris mot pour mot l'article 82 du Code de la famille de 1939 et en 1946, plus de 5000 condamnations ont été prononcées pour avortement.
Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudès, Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de cette série Esclavage, une histoire plurielle et évidemment sur l'application Radio France.
Se préparer au grand oral du bac. Prendre la parole en public, défendre ses arguments lors d'un débat, déclarer sa flamme. Bien parler et savoir se faire entendre, ça s'apprend.
J'essaye de transmettre, par des livres ou par des enseignements, ce que j'ai appris en matière de prise de parole en public.
Ma parole, entraînez-vous à l'art de bien parler avec Bertrand Perrier, réalisé par François Test sur franceculture.fr et l'application Radio France.